Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le Tai Chi Chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors avant de commencer le podcast, je vais faire quelques petites annonces parce que j'oublie tout le temps de le faire, donc je vais le faire tout de suite. Pour commencer, il reste deux places pour la retraite clarté que je propose du 29 avril au 3 mai 2024. C'est une retraite qui a pour objectif de développer l'absorption de l'esprit, le calme de l'esprit, calmer le système nerveux. Et donc tout ce qu'on va faire va être orienté là-dessus avec du dissolve. Et donc il y aura des pratiques assises, entraînement à la méditation. Il y aura aussi des pratiques avec du son, issu du yoga du son. Un peu de mouvement pour ouvrir le corps et des choses qui viennent du tai chi. Tout est compris pour ce stage, c'est-à-dire l'hébergement, les repas, pour avoir vraiment rien d'autre à gérer que la pratique et donc avoir l'esprit le plus disponible possible pour la pratique. Il y aura aussi des petits temps de discussion vraiment consacrés à comment on pratique, comment on amène la pratique dans le quotidien, etc. Donc il reste deux places. Ensuite, je propose tout le mois de juillet des stages, stages d'été, du 1er juillet au 2 août, donc ça doit faire 5 semaines, donc chaque semaine est un nouveau stage, et on peut participer plusieurs semaines bien sûr. Il y a un tarif qui est dégressif, le plus on prend de semaines, donc c'est possible de rester sur place, donc c'est dans ma salle de pratique, au calme, donc pareil, un lieu vraiment très approprié pour pratiquer, et avec 4 personnes maximum sur chaque stage, donc c'est plutôt des stages intensifs pour le tai chi. Donc toutes les informations, en tout cas sur mes stages, vous les retrouvez sur le site hmlyon.com dans la page stage. Ensuite aussi, autre petite note, c'est que je m'occupe de faire les sous-titres pour le cours en ligne d'Adam Missner, pour le cours en ligne donc Discover Tai Chi, donc vous pouvez aller sur discovertaichi.com. Le premier mois est gratuit, donc vous pouvez même vous inscrire juste pour avoir les premières vidéos, c'est gratuit. Et ensuite, vous pouvez avoir un abonnement mensuel ou annuel et l'arrêter quand vous voulez. Vous aurez toujours accès à vos vidéos. Donc si vous prenez le premier mois gratuit, ben, même si vous l'arrêtez, vous aurez toujours accès aux vidéos du premier mois. Et donc, je m'occupe de faire les sous-titres. Et pour les personnes qui suivent déjà le cours en ligne, on a rajouté pas mal de sous-titrage là jusqu'à la semaine numéro 100. Et j'ai décidé de vraiment mettre un accélérateur sur la production de sous-titres. Donc, toute la sphère de la Terre, donc les 5 premières années, devrait être en ligne au niveau du sous-titrage d'ici 6 mois, je pense d'ici l'automne. Voilà pour les annonces, donc je vais démarrer le podcast. Donc je voulais parler de deux choses. Donc, brièvement, je vais faire un petit retour sur le workshop qui vient de se dérouler à Lyon avec Gabriel Missner. Et dans un deuxième temps, j'aimerais parler de la relation professeur-élève, de cette dynamique, et aussi de l'aspect du caractère. Donc, par rapport au workshop, eh bien, c'était vraiment un super moment. Tout le monde a été très content, j'ai eu que des retours très positifs, autant au niveau de la qualité pédagogique de l'enseignement de Gabriel, qui est vraiment très clair, donc c'était précis, très profond. Et d'un autre côté, ses compétences, hein, ses qualités. Donc moi j'ai eu la chance en plus de l'héberger, donc d'avoir un peu pratiqué avec lui. Il m'a corrigé et c'était génial, quoi, parce que chaque fois que j'ai des corrections de quelqu'un de plus avancé, et donc, et notamment bah, de quelqu'un qui offre de belles corrections comme ça, et ben c'est génial, quoi. Pour moi, ça fait gagner des années d'entraînement, quoi, des mois, des années parfois, parce qu'on peut rester longtemps avec des erreurs ou des incompréhensions. Alors, ce qui est rigolo, j'ai fait un podcast hein, que vous pouvez écouter qui s'appelle Toujours Plus, qui parle de ça. Ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai des corrections, quasiment systématiquement, en fait, c'est juste de faire plus ce que je croyais déjà faire beaucoup, mais que je ne faisais pas encore assez. Donc tous les paramètres qu'on est censé faire, les conditions qu'on est censé maintenir, l'organisation du corps qu'on est censé mettre en place, etc. Eh bien c'est toujours aller un peu plus et souvent le faire bien plus que ce qu'on croit. Et là, voilà, il m'a amené beaucoup plus loin sur un des paramètres que j'avais pas réalisé à quel point il fallait le faire vraiment, ce paramètre. C'est-à-dire que je le faisais pour moi, mais vraiment loin, c'était loin d'être assez. Et après, il y a aussi le fait que, ben, on se fait corriger, on s'entraîne et le corps, il change. Et donc, il a la capacité à le faire plus, ce paramètre, hein, au niveau corporel, je veux dire. Et donc, si je parle par exemple d'ouvrir le dos, ouvrir Yao, ben, si je m'entraîne, mon dos, il va changer. Donc, il va avoir la capacité de plus s'ouvrir. Donc, quand je vais re-avoir des corrections plus tard, eh bien, je vais avoir la possibilité d'aller plus loin parce que mon corps s'est transformé. Mais des fois, le corps, il se transforme, mais on ne s'en rend pas compte vraiment, et du coup, on ne se rend pas compte qu'on peut aller plus loin, en fait. Donc voilà, c'est important d'avoir des corrections directes, régulièrement, parce que ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Ça nous amène au deuxième sujet, justement. Donc là, Gabriel, en plus de ses corrections, j'ai pu sentir ses compétences, son jean, etc., et la plénitude qu'il a développée dans son corps, son peigne, etc. Et vraiment, c'était impressionnant de voir cette compétence qui a développé après 10 ans de pratique, hein, ça fait que 10 ans, à l'échelle du Taichi, c'est pas grand-chose 10 ans, et il n'a que 30 ans. Et donc, pour avoir côtoyé, touché, eu des contacts avec des personnes vraiment très expérimentées en Taichi, d'autres maîtres aussi, d'autres écoles, je peux garantir que le niveau qu'il a après 10 ans de Taichi est bien supérieur à toutes les autres personnes, en fait, hein, avec qui j'ai pu avoir un contact. Donc c'est vraiment très impressionnant. Ça donne encore plus la foi dans la méthode, dans cet entraînement-là. Ça donne envie et ça motive. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai eu comme retour de la part de certains élèves qui étaient au workshop avec lui. C'est qu'ils ont été très inspirés. Ça leur a donné envie de pratiquer plus. Ouais, et pour moi, c'est aussi un des rôles d'un enseignant, c'est d'inspirer, de donner envie de pratiquer. Comme ces podcasts que je fais, leur seule utilité, c'est de donner envie de pratiquer. Comme la seule utilité pour moi d'un livre ou quoi, ce serait de donner envie de pratiquer. Il faut juste s'assurer que le contenu qu'on écoute ou qu'on regarde ou quoi ne crée pas plus de confusion. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'écoute que du contenu de mon école. J'ai avant lu tout ce que je pouvais sur le Tai Chi, tous les bouquins que je pouvais trouver sur le Tai Chi. Je regardais tout ce que je pouvais. Voilà, j'ai eu un peu cette phase-là. Mais maintenant que je suis dans cette école, le fait de regarder d'autres choses peut créer des confusions dans l'esprit sur la manière de faire. Et donc, après avoir tout regardé, ça m'a permis de faire mon choix de manière éclairée sur qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre et avec qui. Et donc, maintenant, j'écoute que du contenu qui vient de cette école. Ça peut paraître un peu bizarre de dire comme si j'étais un peu fermé d'esprit, mais c'est pas ça. C'est que j'ai envie d'être guidé de manière claire et que mon esprit il ait des intentions claires quand je pratique et je veux pas être un peu parasité par d'autres informations qui ont leur propre logique au sein d'un autre système, mais pas forcément au sein du système que je pratique. Et comme je l'ai déjà fait, de regarder tout ce que je pouvais, de lire tout ce que je pouvais, je l'ai déjà fait, donc aujourd'hui, je ne sens plus le besoin de le faire. Donc la raison pour laquelle je fais ces podcasts, c'est plus pour les personnes, soit découvrir un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, ou moi aussi, comment j'enseigne, ou pour les personnes qui pratiquent déjà ce système, et ben peut-être maintenir éveillé cette motivation, cette envie, toujours être inspiré pour avoir l'énergie de pratiquer, l'énergie mentale de pratiquer. L'entraînement qu'on fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, il n'est pas facile, donc il faut avoir l'énergie mentale, il faut avoir envie de pratiquer et de s'entraîner vraiment, quoi. Après, de plus on sent les bénéfices, le plus naturellement on a envie de s'entraîner. Mais c'est bien aussi de capter l'état d'esprit de l'école. L'état d'esprit, c'est extrêmement important puisque le Song, il est... Donc le relâchement, la libération, c'est au centre, c'est au cœur de ce qu'on pratique, c'est le moteur dans notre école. Et le type de song aussi, il dépend d'un état d'esprit. Et l'état d'esprit, il est différent dans chaque école. Donc c'est, à mon avis, important aussi de capter cet état d'esprit. Moi, je suis heureux d'avoir la chance d'avoir pu m'entraîner avec Adam, avec Andy, donc là aussi avec Gabriel, d'avoir pu m'entraîner avec Adam en tout petit comité et d'avoir pu... sentir l'état d'esprit dans lequel il s'entraîne. Et chaque petite touche de cet état d'esprit que je peux capter, pour moi, c'est énorme. C'est une des choses qui m'a le plus transformé. Encore une fois, j'ai déjà parlé de ça, j'en reparlerai de toute manière, mais le comment on pratique est vraiment extrêmement important. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le caractère et le rapport professeur-élève. Donc, bien sûr, dans un cours, si je prends un cours classique hebdomadaire, on va avoir différents profils de personnes, des personnes qui vont être là un peu comme ça, juste pour faire leur petite heure et demie de tai chi, etc. sachant que dans notre école, pour moi, les cours que je donne, ça va filtrer un petit peu ce type de personnes, parce que l'entraînement, encore une fois, est assez difficile, il est assez demandeur, et du coup, venir juste comme ça, un petit peu en touriste, j'irais, ça va un petit peu décourager, assez rapidement. Mais disons, voilà, au niveau de la motivation et de l'implication, on va avoir un premier niveau d'élève qui vient et qui fait son cours. Après, si l'état d'esprit plaît à cette personne, on s'entend bien, le cours est sympa, le groupe est sympa, eh bien, elles vont venir, même si elles ne pratiquent pas chez elles, etc. Voilà, elles vont progresser à leur propre vitesse, il n'y a aucun souci. Après, il y a des personnes un peu plus impliquées, c'est-à-dire qui vont peut-être pratiquer un petit peu chez elles de temps en temps. Et puis après, des personnes un peu plus impliquées encore. Voilà, il y a plein de niveaux d'implication et d'investissement. Et puis, il y a des personnes vraiment à fond. Là, c'est rare. C'est très rare. Des personnes qui ont vraiment, j'allais dire ça dans le sang, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais quand moi j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé le Daichi, je ne sais pas, il y avait un appel. Donc quand j'ai commencé, c'était... j'avais déjà commencé à m'entraîner avant à faire des trucs parce qu'un ami m'avait donné 2-3 petits trucs à faire. Mais quand j'ai commencé mes cours, moi j'allais 2 fois par semaine, je faisais tous les cours possibles. Je rentrais chez moi, après le cours, je refaisais tout de suite ce qu'on avait fait en cours. Tous les matins, je me levais, je m'entraînais, je ne sais pas combien de temps. Enfin bref, ça a tout de suite été à fond, quoi. Et j'ai jamais rien pratiqué autant à fond que ça. Et voilà, après, dans mes élèves, ou dans nos élèves en général, trouver des personnes qui ont ce niveau d'investissement, d'implication, etc., c'est quand même assez rare. Cela dit, quand on est élève et qu'on a envie d'apprendre, il y a quelque chose dans le caractère à observer. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, je suis assez disponible, je suis assez proche, assez familier, je dirais. Peut-être que parfois, je me demande si je ne devrais pas prendre un peu de distance, mais je n'intellectualise pas trop la chose, en fait, c'est juste ma manière d'être. Je suis comme ça. Mais du coup, les limites ne sont pas toujours claires pour tout le monde. Alors, c'est très rare, en général, je n'ai aucun souci, hein, tout se passe bien. Mais il arrive que certains élèves, parfois, ne se rendent pas compte de leur propre attitude et de leur propre comportement lié à leur caractère, et que en fait c'est important si on veut aller plus loin, si je veux que mon enseignant m'enseigne, c'est-à-dire qu'il me donne plus de corrections, qu'il s'intéresse un peu plus à ma pratique, etc., eh bien il va falloir que j'ai un caractère qui lui donne envie de me corriger. Je me rappelle l'année où j'ai été affilié à HME, Adam avait dit quelque chose comme le caractère en premier, les compétences en deuxième. Dans le sens où les compétences, ça se développe. Et notamment, si on a le caractère adéquat, les compétences vont se développer. Il suffit de s'entraîner correctement et on va développer. Avec une bonne méthode, un bon enseignement et le temps et l'investissement, les compétences vont se développer. Le caractère, ça se transforme bien sûr, mais c'est plus difficile et il faut avoir conscience de son caractère pour travailler dessus, etc. C'est plus délicat. Si on a un bon caractère du départ, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc on va choisir les personnes plus en fonction de leur caractère. Par exemple, je peux avoir quelqu'un dans un cours qui se débrouille très bien, mais qui n'a pas un caractère qui me donne envie de le corriger. Donc bien sûr, on peut parler de plein de choses. Hein, la sympathie, tout simplement, de manière très basique. Les personnes qui remettent tout en question tout le temps. Enfin voilà, il y a des types de caractères, bien sûr, qui ne vont pas inviter à... qui ne vont pas nous donner envie de leur enseigner plus ou de les corriger plus, etc. Tout simplement de passer plus de temps avec eux. Il y a une histoire de proximité, il y a des personnes, on n'a pas envie d'être proche d'eux. Je parle au-delà des affinités qui peuvent se faire ou pas entre des personnes. Ça, les affinités, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais juste sur l'aspect déjà de l'enseignement et de l'apprentissage. Hein. Il y a autre chose aussi, par exemple, quelqu'un à qui on va faire une correction une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, 10 fois, pendant 1 an, tous les jours, lui corriger la même chose, et cette personne n'y prête pas attention. Au bout d'un moment, on va plus avoir envie de lui corriger. Tout simplement parce que juste, elle ne prend pas les corrections à cœur. Et en plus de ça aussi, parce qu'on se dit que ça sert à rien, parce que du coup... Alors ça fait partie du boulot de l'enseignant, hein, de répéter, c'est normal, et je pense que... Si on n'accepte pas ça, il faut changer de métier, il faut accepter la répétition, beaucoup, c'est normal. Mais encore une fois, il y a toujours une limite à tout, il y a toujours un équilibre à tout. Et donc, c'est aussi un dosage en fonction de chaque personne. Donc, moi, j'ai une attention particulière à chaque personne, au caractère de chaque personne. Et j'essaye de doser, et donc, ce ne sera jamais parfait. Hein. Le dosage, il est subjectif. Et voilà, il n'y a pas un dosage parfait, c'est aussi en fonction de moi. Et j'essaie de doser parce que, ben, voilà, si je fais beaucoup de corrections à quelqu'un et que cette personne, je vois qu'elle n'accorde aucune attention à la correction que je viens de lui donner, c'est-à-dire je lui corrige quelque chose et une seconde après, elle est déjà plus en train de le faire, je vais lui redire. Et en fait, au bout de 3-4 fois, c'est toujours pas le cas, ben, je vais arrêter, par exemple. Ça veut pas dire que j'y reviendrai pas, mais plus tard, à un autre moment. Et ça va dépendre aussi du comportement de la personne. Ça dépend de comment c'est fait. Si je vois que c'est vraiment... Bon, qu'elle essaye du mieux qu'elle peut, mais que c'est compliqué pour cette personne, c'est pas grave, on y reviendra, il n'y a pas de souci. Mais des fois, je vois qu'il y a un peu de mauvaise volonté ou des choses comme ça, donc là, quand c'est ça, moi, j'insiste pas clairement. Et autre chose aussi, c'est le fait de trouver des excuses sans cesse. Donc, par exemple, je vais faire une correction et la personne trouve une excuse. Je vais prendre un exemple au hasard, c'est un exemple qui est assez facile à se représenter. Une personne, par exemple, qui ferme les yeux pendant un exercice et je lui dis d'ouvrir les yeux. Et j'insiste dessus 2-3 fois et elle continue de fermer les yeux. Donc je le redis et cette personne me dit « oui mais ». Donc déjà quand on commence par « oui mais », en général ça démarre mal. Et « oui mais j'y arrive mieux comme ça ». Donc ça veut dire que la personne elle va mettre les instructions et les consignes du professeur au second plan par rapport à ses propres convictions. Donc quand on est enseignant, si la personne elle estime que elle, sa manière de faire est meilleure que ce qu'on lui dit de faire, on va pas avoir envie de lui corriger du coup. Qu'est-ce que cette personne va gagner? Bah que le professeur ne va plus avoir envie de lui donner des corrections puisqu'elle ne les applique pas parce qu'elle pense qu'elle c'est mieux pour elle. Alors je pourrais expliquer pourquoi on fait spécifiquement de cette manière, mais là c'est pas le sujet du podcast. J'ai pas envie de parler de ça maintenant ici. J'aurais même pas besoin en fait d'expliquer. Personnellement, j'ai un type de caractère où j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. En général dans la vie, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'aime bien décider par moi-même, faire ce que j'ai envie, etc. Et ma vie a toujours été un peu guidée comme ça. C'est pour ça que je suis à mon compte depuis que j'ai 20 ans. Par contre, quand je choisis un enseignant, quand je choisis d'être enseigné par quelqu'un, je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que je fais ce que la personne me dit de faire. J'ai toujours fonctionné comme ça. Du moment que j'ai choisi un enseignant, je fais ce qu'il me dit. Et si à un moment donné, j'ai plus envie de faire ce qu'il me dit, c'est là où j'arrête. Je vais choisir un autre enseignant. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai pris pendant longtemps des cours de chant indien aussi, en plus du tai chi. Et donc mon professeur Arnaud, si tu m'écoutes, bonjour. Et je devrais faire un podcast avec lui bientôt. J'attends avec impatience ce moment. J'ai toujours fait ce qu'il me disait, en tout cas essayé au mieux de mes possibilités. J'ai toujours fait ce qu'il me disait, sans poser de questions, sans en remettre en question ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu confiance, même sans comprendre exactement pourquoi. En fait, du moment que j'ai confiance dans les compétences de la personne et dans sa capacité à transmettre, je lui donne ma confiance, donc je fais ce qu'elle me dit de faire, point. Et donc c'est pareil en tai chi. Moi, j'ai jamais trop posé de questions sur le pourquoi, le comment, etc. Quand on me dit « fais que ça, comme ci, comme ça », je le fais. La chance avec l'enseignement d'Adam Missner pour le tai chi, c'est que c'est extrêmement clair, très précis, donc... Il reste très peu de questions en fait. Il y a juste, voilà, des fois les instructions, si on les a mal comprises, je vais vous redemander, mais je ne veux pas dire ouais, mais non, mais moi je préfère comme ça parce que ça marche mieux comme moi je fais. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Parfois, des personnes ont un type de caractère, ont un comportement avec moi où, bien sûr, je ne suis pas un maître, je ne suis pas si fou, voilà, je suis juste un enseignant, mais moi j'ai toujours considéré mes enseignants de la même manière. Et si je me comporte comme certains se comportent avec moi, des fois je me dis waouh, mais. Je me verrais tellement pas, moi, à ce comportement avec un de mes enseignants, quoi. C'est sûr que ça donne pas envie d'enseigner plus avec ce type de choses. Donc, par exemple, si un élève est toujours en train d'avoir des excuses, pareil, si pour pas suivre les instructions, je ne parle pas de réelles raisons. Hein. J'ai une blessure à l'œil, du coup, je peux pas ouvrir mon œil, par exemple. Je parle vraiment d'excuses. Et en fait, on est spécialiste pour trouver des excuses. Et j'entends souvent plein d'excuses pour ne pas suivre les instructions ou pour pas suivre les instructions, en tout cas pour se justifier de pourquoi on ne suit pas les instructions. Et à mon avis, ça, c'est une erreur. C'est une erreur de caractère, une erreur de comportement. Si on commence à s'observer, à se dire « oui, ok, c'est vrai, j'ai pas suivi les instructions, il faut que je m'emploie à le faire », et point, c'est fini, en fait. Moi, c'est arrivé que j'ai un comportement puéril. Par exemple, lors d'un stage, il m'a fait remarquer cette chose. J'ai fait « oui, c'est vrai ». t'as raison, c'est un comportement enfantin. Et il m'avait pas dit ça, hein, c'est moi qui ai dit, mais ouais, t'as raison, ça c'est complètement enfantin. C'était une blague, c'était pas pertinent, disons, à ce moment-là, pour l'enseignement, ben voilà, et c'est fini. J'ai pas besoin de me trouver... En fait, le problème, c'est qu'on est mal à l'aise, et du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle il va y avoir cette réponse face à un inconfort, de se justifier, parce qu'on n'arrive pas à gérer ce malaise, à accepter ce malaise. Et c'est au cœur de ce qu'on entraîne à HME, accepter l'inconfort, relâcher face à l'inconfort. Il y a un inconfort, ok. Donc là, on vient me faire une remarque, ça crée un inconfort dans mon esprit, que je me sens un peu comme, vous savez, comme un enfant qui est pris la main dans le sac, en train de faire une bêtise. Hop, il y a un inconfort, et qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Se justifier, éviter le truc, voilà. Eh ben non, en fait, on n'est plus des enfants, on est adultes. Donc, ah ouais, ok, t'as raison, c'est vrai, c'est nul, quoi. Donc quand Andy m'a fait remarquer ce truc que j'ai fait deux fois, eh ben, il m'a fait remarquer, j'ai fait, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est puéril, et donc je l'ai jamais refait. Jamais refait cette blague. Mais si je m'étais justifié, etc., blablabla, je serais resté avec mon inconfort et j'aurais peut-être continué de faire la même blague, en fait, hein, plus tard. Enfin bref. Donc voilà, c'est riche, hein, comme sujet. Il y a plein de choses dans le caractère. Se poser la question, en fait, qu'est-ce que j'ai dans mon caractère qui va donner à mon professeur l'envie de m'enseigner, l'envie de me transmettre. Et donc, on est passé d'un système traditionnel. Là, je regardais un film qui s'appelle The Disciple, ou Le Disciple, qui parle de la musique indienne et de la transmission de la musique indienne. Et on voit le changement d'époque. Il y a deux époques, en fait. Et c'est très intéressant de voir ce changement d'époque. Hein. Et donc, la relation maître-disciple, à un moment donné, on voit le disciple qui masse son maître, qui fait des massages, etc. Il l'aide, il le soutient. Et donc, en Chine, c'était un peu pareil. Le sifu, le maître, ça avait une connotation un peu de père. Et donc, quand on était disciple comme ça, eh bien, on s'occupait du maître. Même financièrement, quoi, ils avaient cette relation-là. Je ne dis pas que c'est cette relation qu'il faut qu'on ait ici, hein, mais on est passé d'un extrême à l'autre, quoi. Et donc, nous, on est dans une culture plutôt où l'élève devrait tout choisir, comment les choses devraient se passer, etc., quoi. Et je pense que ce n'est pas non plus la bonne idée. Ce n'est pas, en tout cas, la meilleure façon de progresser, réellement. Et donc, il y a un minimum de respect, de bonne attitude, de bonne conduite, d'écoute. C'est-à-dire que le professeur, il voit que l'élève est à l'écoute réellement, qu'il essaye vraiment de faire au mieux pour suivre les instructions, etc. Et qu'il n'est pas dans la contradiction sans cesse, etc. De toute manière, quand on est dans la contradiction sans cesse avec son professeur, c'est à nous, en tant qu'élève, de changer de professeur. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc c'est aussi avoir cette clarté-là, à un moment donné, de choisir. Moi, ça m'est arrivé une fois, hein, dans toute mon expérience d'enseignant, même quand j'enseignais avant la musique, ça ne m'était jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois. Quelqu'un qui était tout le temps en train de remettre en question la méthode, la manière de faire, etc. Et je finis par lui dire, écoute, moi je pense que la meilleure chose à faire, ce serait que tu changes de professeur. Parce que là, c'est positif ni pour toi, ni pour moi, quoi. Ça a rien, tu perds ton temps. Parce que si tu remets en question, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance dans les instructions, donc tu ne vas pas les appliquer. Et pourquoi on paye un professeur? Pour qu'il nous donne des instructions. Donc si on ne les suit pas, à quoi ça sert? Moi quand je donne mon argent, quand je fais un stage et que je donne mon argent, ou que je prends un cours ou quoi, c'est pour qu'on me dise quoi faire, qu'on me donne des instructions. Bien sûr, aussi avoir des corrections, mais justement, les corrections vont guider aussi ma pratique. Donc, si on me donne des instructions, mais que je ne les applique pas, à quoi ça sert? Donc, il faut que j'aie confiance. Et donc, ça aussi, c'est un autre sujet, j'en reparlerai. Mais il faut que je vois que la personne, elle ait cette écoute, cette envie, etc. Et c'est au-delà de sa pratique et de son niveau, en fait. C'est plus l'attitude. Et moi, je vais plus avoir envie de pratiquer avec quelqu'un, de lui enseigner, de passer du temps avec elle, par rapport à son caractère et son attitude, plus que par rapport à ses réelles compétences, en fait. C'est pas lié à la compétence. Et ça, c'est normal, hein. Les compétences, c'est bien, mais le caractère, c'est plus important. Ok, voilà pour ce sujet. Je pense que je reparlerai. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait, là-dessus, mine de rien. Peut-être dans des échanges, quand j'aurai des échanges avec d'autres personnes lors de prochains podcasts. Je vous souhaite à tous une très bonne pratique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des remarques. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.